Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et oui, chers amis, il est 21h, 22h, votre quotidienne sportive. Et oui, c'est Time Sport. Chers amis, vous êtes bel et bien sur Beurre FM. Ah, écoutez, Bilal arrive dans quelques instants, mais là, ce soir, on a beaucoup de sujets à aborder, très important. Forcément, on a une info qui est tombée. On va parler d'échange, chers amis. Et ça fera le plus grand bonheur de nos auditeurs, de nos auditrices et du plateau que je vais présenter dans un instant, chers amis. Donc évidemment, vous pouvez réagir au 0153 48 3000 avec les auditeurs. Donc forcément, on vous donne la parole. On a un plateau qu'on va présenter tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Parmi les thèmes qu'on va aborder, forcément, le sujet du jour. Et je vois déjà le standard qui se remplit. Ça fait bien plaisir. Vous êtes sur Time Sport, sur Beurre FM. Alors, un bien ou un mal, le retour de Benzema en bleu. C'est vrai qu'on en avait parlé hier pendant les JO. Le retour possible de Benzema, ce n'est pas encore officiel, mais c'est un sujet forcément qui fait bouger beaucoup de choses, que ce soit du côté des supporters français, mais aussi de la toile sportive qui commence un peu à s'affoler. Personnellement, on en reparlera dans tous les cas avec l'équipe qui est là ce soir. Donc Benzema et les JO, vous l'aurez compris. Ensuite, on va parler de Deschamps et de sa nouvelle compo. Bah, on a une information qui est tombée il n'y a pas très très longtemps, on va aussi l'aborder avec l'équipe. Dans tous les cas, vous en faites pas donc, et on finira avec Orlien forcément et Cyril qui vont faire le show ce soir. Chers amis, comme je vous l'ai dit, 0153 48 3000. On va avoir la chance de prendre vos appels dans un instant, mais là maintenant, chers amis, c'est le moment forcément de présenter le plateau qui m'accompagne ce soir. Gogo Time Sport.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
Et oui, chers amis, comme vous l'aurez compris, vous êtes bel et bien sur Time Sport, sur Beurre FM, pendant une heure, donc c'est votre quotidienne sportive. On va aborder de nombreux sujets, vous l'aurez compris, Deschamps, Benzema, on aura Aurélien tout à l'heure pour sa chronique du mercredi, forcément à ne pas louper en fin d'émission, et Vanessa que vous retrouverez dans une heure forcément, mais là c'est bel et bien votre quotidienne sportive. Alors, on a un très beau plateau ce soir, franchement, vous êtes servi aux oignons, Moha, comment tu vas?
Ah, très bien, Solal, et toi?
Écoute, ça va super bien, très très content d'être là à chaque fois avec toi. Moha, le Duc, qu'on retrouve partout sur les réseaux forcément. Il fait la une déjà de toutes les plus belles publications Instagram, toujours avec sa casquette bien lissée sur la tête et son sourire d'antan.
Je te remercie, Solal, très heureux d'être sur la plus belle des radios. Toujours bien accompagné, toujours de très belles compositions ici sur le plateau de Time Sport. Et comme tu l'as dit, on a des sujets assez croustillants à développer sur notre plateau ce soir.
Bien évidemment, mais écoute, on va se faire un plaisir forcément d'aborder ce genre de sujet et on attend ton expertise, excusez-moi, forcément. On a déjà des appels au 0153 48 3000 et on a HD aussi qui est juste à la gauche de moi. Comment ça va, HD?
Bonsoir Solal, bonsoir à tous, ça va très très bien.
Écoute, ça fait un plaisir aussi de te voir ce soir, HD, que vous avez sûrement entendu déjà dans la semaine ou dans les semaines précédentes. Une expertise folle aussi pour les sports de raquettes. On avait tous apprécié sa chronique sur le badminton, forcément. Chers amis, ensuite, on aura forcément Karim qui est avec nous dans l'équipe.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir Solal et bonsoir les amis sur le plateau.
Bonsoir, écoute, à toi Karim, ça fait très très plaisir et,
yes.
et on va passer une très très bonne soirée. Karim qui a rejoint l'équipe récemment forcément, donc on est tous ravis de l'avoir ici. Vivien aussi qui est sur le plateau.
Bonsoir Solal, bonsoir à tous les auditeurs. Bon ben on a un beau plateau avec quand même deux champions du monde qui arrivent en fin d'émission, donc... Mais bon, ils ont intérêt à se tenir tranquille parce qu'ils sont deux et on est cinq, hein, donc on les aime beaucoup. Et mais...
à carreau.
Voilà, ils vont se tenir à carreau malgré tout. Non, ce sont deux très belles personnes, honnêtement.
Et pour finir, ce collectif incroyable, on a Grégory avec nous. Comment ça va, Grégory?
Bonsoir, ça va très bien, merci.
Grégory, qu'on avait reçu récemment et qui est aujourd'hui attablé aussi une deuxième fois avec nous. Ça fait tellement plaisir. Il est venu avec des petits gâteaux. sont venus. C'est la troisième fois que tu viens forcément dans ces studios et donc on est très heureux de t'avoir ce soir. En tout cas, les amis, aujourd'hui, il y a de nombreux sujets qui ont retenu forcément.
Et oui, Solal.
Et on va commencer forcément par Deschamps, les amis. Je pense que c'est un sujet qui a forcément retenu notre attention, que ce soit nous au sein de l'équipe, mais aussi sur les réseaux sociaux. On a pu voir les gens, s'emporter. Deschamps, comment parler de Deschamps sans Benzema. Et donc, je vous laisse forcément choisir ce que vous voulez pour entamer cette émission, les amis. Est-ce que quelqu'un veut?
Moi, je veux bien commencer. Déjà, il faut mettre une base quand tu parles de Didier Deschamps, tu vois. Il faut mettre du respect sur le monsieur qui a gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France. À partir de ce moment-là, on est vraiment dans le seul pays au monde où tu peux gagner ce titre majeur, qui est sûrement le titre dans le football le plus difficile à gagner, et quand même être assujetti à des critiques. Je sais pas ce qu'il faut faire de plus pour... pour servir ou donner du respect sur le nom de Monsieur Deschamps. Je sais pas ce qu'il doit accomplir en plus, peut-être gagner la Galactic Football Cup.
Non. Peut-être gagner l'euro.
Peut-être gagner l'euro, c'est vrai. Mais l'euro, je pense que c'est en bon chemin. Ça va le faire, je pense, pour cet été. Je vois très peu d'équipes, si ce n'est une seule, qui peut inquiéter les Bleus. Mais là, je pense que, en plus, Benzema, ça doit être le cadet de ses soucis. Benzema, c'est plus le souci de Thierry Henry actuellement. Donc, franchement, il a toutes les cartes en main. Il y a eu certains oublis durant cette convocation qui m'ont un peu déçu. Je pense à Bradley Barcola. Mais bon, quand on le connaît, l'homme, on sait très bien qu'il est dans une certaine continuité avec sa liste, qu'il va pas faire de surprises comme d'habitude. Du coup, non, quand je vois la Coupe du Monde 2022, je suis pressé de voir ce qu'il va faire.
Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que les gens, en majorité, ils parlent plus du fait que ça fait déjà plus de 10 ans qu'il est là et qu'il veut pas lâcher le steak, on va dire, entre guillemets, tu vois. Et c'est ça que les gens, ils comprennent pas trop, je pense, la majorité des gens. Après, ouais, moi, sur Deschamps, c'est pas parce qu'on est. Je suis pas pro Deschamps, mais oui, il y a le respect à lui donner. On peut pas, limite, c'est pas, on peut pas le critiquer, mais c'est. Franchement, ça frôle ça, vraiment, les amis. Et après, voilà, il va faire un euro. Pour moi, qu'il y a défaite ou victoire, ça va pas entacher le parcours de Didier Deschamps avec l'équipe de France en tant que sélectionneur.
Le résultat est pas important pour toi.
Bah en fait, après tout ce qu'il a donné, et ouais, c'est, enfin, je suis pas dans la secte de Didier Deschamps, rien à voir.
Non, mais
vraiment, je suis comme Mohamed, oui. Par rapport à l'entame qu'il a de son argumentaire. Franchement, ouais, on peut pas critiquer Didier Deschamps. Et même si oui, il va pas jusqu'à la victoire, oui, à 7 euros en Allemagne, je vais pas remettre en cause tout le parcours de Didier Deschamps. Comme j'aurais pu le faire, par exemple, avec Jamel Belmadi, qui nous a fait une CAN.
Belmadi, si on prend ton raisonnement, il n'est pas critiquable non plus, parce qu'il a gagné la CAN en 2019.
Et si, il est critiquable parce qu'il y a eu des faits.
Il a ramené quelque chose qui n'était pas arrivé depuis.
Il a ramené 2019, il n'y a pas de problème, il a gagné la CAN, il avait influé un nouvel élan. Et après, justement, bah, tout est parti en fumée.
Mais il y a eu plus de polémiques du côté de Deschamps.
Voilà. Et Didier Deschamps, ça n'a rien à voir.
Mais non,
amis.
Mais Didier Deschamps, il y a eu 50 000 polémiques aussi. Il n'y a pas
que Belmadi.
Là, c'est juste que du côté de Belmadi, c'est un peu plus dans l'émotion. Parce qu'on n'est pas dans l'esprit critique et le pragmatisme français. Et qu'on est en Algérie et que l'émotion prend forcément le dessus. Mm-hmm. Parce que le football, c'est plus dans l'émotionnel. Mais si on revient en France, les polémiques, elles ont toujours existé avec Didier Deschamps. Que ça soit avec Samir Nasri en équipe de France, Benzema, j'en parle même pas, ça a plus pris de la place dans sa carrière que c'est certains titres qu'il a gagné avec l'équipe de France. Du coup, niveau polémique, on a été largement servi.
Et
du
c'est
côté
toujours
Didier Deschamps.
Tout ça, ces histoires.
Non, c'est pas dédonné. Il a juste pas voulu parler. Il a jamais voulu parler. C'est littéralement le sélectionneur qui
parce
parle le moins au monde.
Mais de toute façon, quoi qu'ils disent, il va être critiqué en fait.
Non, non, non. Il a juste rien dit. C'est pour ça qu'il est critiqué. Les seules choses sur lesquelles, pour moi, il est critiquable, Didier Deschamps, c'est sur le jeu, sur le terrain. Je trouve ça extrêmement désagréable à regarder niveau footballistique.
Il y a pas que le jeu. Moi, je t'écoute depuis tout à l'heure. Bien sûr, grand respect. Il a gagné la Coupe du Monde. Après, il a une top team. Faut pas non plus oublier
bien
ça.
Sûr.
Il y a une top team. Il y a beaucoup de gens, s'ils étaient à sa place, je pense qu'ils iraient aussi très loin.
Donc Zidane, si avec ses trois Ligues des Champions, c'est la même chose. Il avait une top team. Donc on enlève.
Si on change. Non, c'est pas la même chose. Et c'est là où je veux en venir. Si on change de prisme, on a quelqu'un qui a fait trois finales et qui en gagne une seule.
Oui.
Là, tu parles de Zidane. Oui. On a quelqu'un qui fait trois finales et qui gagne les trois. Pour moi, Deschamps, c'est un homme de groupe. Il sait faire et composer des bons groupes. Et là-dessus, il faut lui reconnaître, il n'y a pas photo. Par contre, c'est pas un meneur dans le sens de finale. Le plus important quand tu fais une compétition, c'est de gagner la finale.
Mais Grégory, tactiquement, pour moi, c'est le point d'orgue sur lequel il faut critiquer Didier Deschamps. Quand j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde 2022, jusqu'à la 70e minute... je sais pas si t'en souviens HD, moi je m'en souvenais plus. J'ai fait un blackout moi sur les 70 premières minutes.
Dans le jeu, c'était rentré Colomoigny et tout a changé, c'est ça?
Mais non, pas du tout, c'est juste que tactiquement, il y a jamais eu un match qui a autant été l'apologie du jeu de Didier Deschamps. Une espèce d'inertie,
il gagne,
de vide.
Il gagne,
il gagne pas la finale de
cette partie. Il a gagné.
Non, ça s'est pas bien fini. La 2022, ça s'est pas bien fini. On perd contre l'Argentine. c'est incomparable. Et il gagne la Coupe du Monde 2018 parce que le jeu de transition était le plus rodé.
Et surtout,
et il tombe sur le meilleur.
Il a pas gagné
Mbappé
la Coupe du Monde 2022 parce que son jeu de transition était pas assez rodé.
Parce que c'était pas suffisant.
Pas assez
c'est pas suffisant quand t'as des Argentins qui te mettaient des coups de pied et des coups de coude durant les 70 premières minutes.
On en vient à ce que je disais tout à l'heure. À quelqu'un qui a la capacité de mobiliser ses troupes au moment le plus important qui s'appelle une finale. Mmh. C'est pas normal. Moi, j'y étais à la Coupe du Monde. J'ai fait les deux mois. C'est pas normal d'avoir une équipe qui arrive à la Coupe du Monde. Elle a pas de grinta, elle a rien.
Il y a un truc aussi qui est différent par rapport au Real. Le Real est un club de finale, en fait. C'est juste monstrueux. Ils en ont vécu plus qu'ils en ont gagné. Et c'est le club qui est le plus récompensé de finale, en tout cas. Donc c'est incomparable. Le Real est conditionné à jouer des finales. La France découvre la finale, c'est différent.
Didier Deschamps est conditionné pour gagner, pour aller jusqu'en finale, pour aller à chaque fois passer les foules, ne s'arrêter qu'en finale et perdre justement une finale. Mais Didier Deschamps,
on se trompe. Didier Deschamps a fait plein de finales en tant que joueur. Il en a fait encore plus en tant qu'entraîneur. L'équipe de France, c'est des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs d'Europe, qui sont habitués à aller très loin dans les compétitions. Ils ont ça. Aujourd'hui, le football français, ils ont l'ADN de la compétition, de la victoire, de la finale. Et ça, c'est venu d'ailleurs avec la génération 98. Donc, c'est pas un argument. Je pense qu'il se manque vraiment à l'équipe de France. C'est Zidane. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quoi. C'est Zidane à sa tête.
Après, pour continuer dans ce débat sur le rôle qu'a Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, on voit que finalement les résultats, tu parlais des trois finales, donc 2016, 2018, 2022, finalement le résultat en finale, il est dépendant plus de la valeur du groupe, c'est-à-dire que finalement en 2016 et pour d'autres raisons en 2022, la valeur intrinsèque du collectif était plus faible. Pourquoi ? Parce qu'en 2022, par exemple, il y a beaucoup de blessés ou de forfaits juste avant le tournoi.
Oui.
Et donc la valeur du groupe est un peu plus faible qu'en 2018. Et comme par hasard, la France n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et pareil, sur l'aspect tactique, la seule fois où finalement Deschamps il a pris des risques, c'est-à-dire il a essayé autre chose avec le système en 3-4-3 avec l'association Griezmann, finalement ça a été son plus mauvais résultat. C'est-à-dire à un moment donné où il a essayé de mettre sa patte, de créer un jeu français, parce que c'était ça une des grandes critiques finalement de 2018, c'était d'avoir gagné avec une des équipes les plus désagréables à regarder de l'histoire des Coupes du Monde. Et finalement, la seule fois où il a pris des risques dans le jeu, etc., ça n'a pas fonctionné. Donc je pense que c'est un peu ça la difficulté, c'est que Deschamps, finalement, il a des très bons résultats si on regarde à l'échelle de l'histoire de l'équipe de France, mais est-ce que c'est une équipe dont on va se souvenir ? Et je pense que c'est aussi ça le débat à avoir, c'est qu'est-ce qu'on garde de cette équipe de France ? Des grandes individualités ou une grande équipe ? Moi, pour l'instant, malgré les trophées, j'ai pas l'impression d'avoir vu une grande équipe ces dernières années en équipe de France.
Je suis totalement d'accord avec toi, HD, je reprends les mots de Grégory. Sur le vivier international, je doute qu'un pays, et j'ai vu que statistiquement, au niveau des joueurs formés qui passent au niveau professionnel et au haut niveau, la France dépassait de très loin le Brésil, qui est pendant longtemps était dans l'imaginaire collectif.
Toujours aujourd'hui. Au Paris Saint-Germain,
on les associe à cette espèce de pays qui ne sait que produire de grands joueurs techniques très forts. Mais aujourd'hui, juste l'Île-de-France, je pense, suffit amplement à détrôner le grand Brésil. Et c'est tout à fait normal. Je rejoins vos deux propos. Quand tu te retrouves avec le meilleur joueur du monde dans ton effectif, un milieu de terrain en faire pâlir certaines équipes, là, c'est vrai qu'avec tous ces arguments, on peut tomber facilement contre Deschamps, mais il y a quand même trois cycles dans la construction de groupe. Tu sais, c'est un espèce de mini palmarès, pseudo palmarès où 2018 c'est une équipe, 2021 l'Euro aussi c'est une équipe, 2016 c'est une autre équipe et 2022 c'est la génération qui va aller en 2026 et en 2030 vers ces grandes compétitions. Franchement, je suis pressé de voir ce qu'il va faire avec ces gens-là. Je doute que Zizou ne prenne pas sa place d'ici peu après cet Euro. Mais dans le jeu, je te rejoins, HD, ça n'a jamais été son point fort. Du coup, c'est pas maintenant en 2024 qu'on va venir lui demander de s'inventer
HD,
de la tactique.
Il a raison une chose, et quand il parle de la prise de risque, je pense que ce qui nous a manqué et ce qui manque toujours, c'est la prise de risque. On va prendre la caricature, la finale contre le Portugal. On a Cristiano qui sort. C'est le moment où tu dois prendre des risques, tu dois y aller parce qu'il n'y a pas grand-chose en face. Eh ben, il fait rien. Il attend.
Non, mais s'il l'aurait fait, il serait trompé. On aurait dit, vous lui serez tombé dessus quand même.
Donc voilà.
Il y a toujours une part de risque. Enfin, dans n'importe quel métier, t'es entraîneur. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont payés dans des sommes comme ça aussi.
Et peu importe les décisions aussi, ce qui est hallucinant, c'est que bon, j'ai pas une tirée à tout bout de champ, mais c'est vrai que on a tendance à tirer rapidement sur notre équipe de France. Alors certes, à l'étranger, ils sont peut-être pas au point à souligner beaucoup de défauts comme ça, mais cette équipe de France à l'étranger, je la vois plus comme par exemple une équipe qui fait très peur. Mais pour une petite comparaison de basketball, ce serait par exemple les Détroits contre les Bulls de 93. Les Détroits qui étaient une équipe qui faisait très peur, mais dont on retenait pas forcément une alchimie collective. Et cette équipe de France, elle a plein de talents, plein de qualités, elle fait très peur à l'adversaire. Personne n'est content de tirer la France, que ce soit en poule, en élimination directe et en barrage. Mais pour autant, je pense, et pour rejoindre aussi HD et votre avis, qu'elle va pas marquer autant qu'on peut marquer, bah, je sais pas, la Hollande à une certaine époque, l'Espagne quand il la soulève en 2010, et d'autres équipes aussi qui avaient vraiment un collectif nouveau et qui apportaient quelque chose à ce foot, qui inventait quelque chose.
Moi, j'aurais juste une question à poser, c'est au niveau international, puisqu'on parle de football international, ou même au niveau club. Un entraîneur qui fait 3 finales, qui gagne la première, qui perd les 2 autres, est-ce que vous pensez que le pays le conserve en place ou que le club le conserve en place ?
Honnêtement,
oui, c'est possible. Moi, ça me choque pas. C'est-à-dire que souvent les
comme un Simeone, par exemple, à l'Atlético, peut-être avec ses
parce qu'il représente beaucoup trop l'équipe. Vivien, il représente trop ce club. Tu peux pas le.
Oui, oui. Puis bien sûr, puis c'est pas le même contexte. Parce
c'est absolument
que
c'est pas le même contexte.
L'Atlético, bien sûr, c'est. On perd 2 fois contre le Real, surtout. C'est...
Bah oui.
Et après, par ailleurs, il y a un aspect politique qui a été posé. C'est-à-dire que c'est le fait de lier Didier Deschamps à Noël Le Graët. Et donc là, ce qui est intéressant aussi sur l'Euro qui va venir.
Il est parti, Le Graët. Hein,
oui, non, mais justement, c'est pour ça.
Il faut rappeler aux auditeurs, c'est pas pour toi. Mais...
Non, mais sur l'Euro qui va venir, c'est la première compétition sans la présidence de Noël Le Graët. Donc, est-ce que l'attitude de la fédération vis-à-vis des performances de Deschamps cet été sera différente que ce qui s'est passé jusqu'à présent ?
Merci, chers amis. Écoutez, bah, on va marquer une courte pause. On revient tout de suite pour continuer sur cette actualité équipe de France, que ce soit donc Benzema pour les JO, vous l'aurez compris, rumeur ou réalité. On va en parler dans un instant et on va continuer aussi sur Didier Deschamps. Reste avec nous, chers amis.
Time Sport revient dans un instant. Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et oui, chers amis, écoutez, on est toujours sur Time Sport, sur Beurre FM avec nos chers chroniqueurs et intervenants. Forcément, tout à l'heure, on recevra donc Aurélien. Bilal ne serait tardé. Aurélien, que vous retrouvez tous les mercredis soirs, chers amis, pour réécouter ses podcasts. Ça se passe sur l'application Beurre FM. Vous pouvez aussi retrouver les podcasts, que ce soit de la matinale, de Vanessa qui arrive dans 45 minutes, ainsi que toutes les autres émissions, que ce soit celles en semaine et le week-end aussi. Bon ramadan à ceux qui nous écoutent. On est toujours dans cette période-là. Sahaf Torgom à nos chers auditeurs et auditrices qui le passe. Petite pensée aussi, comme disait Augustin hier et Ryan, à ceux qui n'ont pas la chance de le fêter, excusez-moi, avec des gens de leur famille, en tout cas qui le font tout seul. On pense fort à vous, dans tous les cas. Merci d'écouter Beurre FM, chers amis. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, on va continuer forcément sur ce sujet de l'équipe de France qui agite beaucoup la toile. Donc, chers amis, ne quittez pas, vous êtes bien sur Time Sport.
Time Sport. La parole des sociaux.
Alors, le sujet du jour, vous pouvez appeler le 01 53 48 3000, un bien ou un mal, le retour de Benzema en bleu. Et forcément, bah, je vais tendre la parole à HD par rapport à ce sujet.
Alors, paradoxalement, je pense que c'est pas très important. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je pense que c'est bien que Benzema ait dit publiquement qui se rend disponible pour l'équipe de France Olympique, parce que on sait la complexité que ça va être pour Thierry Henry pour composer une sélection. Il y a plein de paramètres. Il y a, est-ce que les clubs vont libérer les joueurs. On a vu le casse-tête que ça avait été il y a 3 ans pour les Jeux de Tokyo, dans un autre contexte, mais je pense que ça sera quand même compliqué. Il y a aussi le fait que ça arrive juste après l'Euro. Donc il y a beaucoup de clubs qui, à mon avis, vont avoir la position qui est celle qui a été donnée là aujourd'hui par le Barça, qui est de dire on ne libère que pour une des deux compétitions. Donc à un moment donné, au niveau de la fédération française, quelle est la hiérarchie entre l'Euro et les Jeux Olympiques? Je vais donner un exemple. Il y a 3 joueurs là dans la sélection de Deschamps là pour le rassemblement qui sont éligibles pour les Jeux Olympiques. Au-delà des 3 exceptions au niveau de l'âge, mais il y a 3 joueurs. Il y a Saliba, Kamavinga et Zaïre Emery par exemple, qui théoriquement peuvent faire les JO. Est-ce que Deschamps va dire à Henry, bon bah ces joueurs là je te les laisse, c'est toi qui a la priorité? Bien sûr que non, mais ce que je veux dire c'est que politiquement, voilà, les Jeux Olympiques se passent en France. Est-ce qu'à un moment donné au niveau du football français, on donne la priorité à, voilà, donc je pense que finalement en fait la question de Benzema ou pas Benzema, elle va arriver à un troisième niveau, c'est-à-dire une fois que tu sais quels joueurs sont libérables et deux, entre l'équipe A qui va jouer l'Euro et les Jeux Olympiques, quelles vont être les priorités et quels joueurs vont être mis dans quelle équipe, à ce moment-là tu te poses la question de Benzema.
Ouais. Moi pour le coup, par rapport à Karim Benzema, j'ai pas compris, il a mis terme à sa carrière internationale. Et là il veut revenir, il ouvre peut-être la porte à si on l'appelle par rapport aux Jeux Olympiques. Ouais, en vrai cette histoire entre même Karim Benzema et l'équipe de France, c'est même pas Karim Benzema et Didier Deschamps là, c'était Karim Benzema et lui-même en fait. Moi j'arrive plus trop à suivre. Et oui, comme tu dis, je te rejoins un peu, c'est un peu secondaire en fait ce sujet-là. Il y a une équipe à faire. Bah ouais, ça serait bien.
Enfin, on parle quand même d'un ballon d'or, je sais pas. C'est dur de dire qu'un sujet secondaire avec un ballon d'or.
Un ballon d'or qui est parti de lui-même, un ballon d'or au final qui a eu quand même quelques antécédents, moi j'ai pas trop compris. Après, moi je juge pas.
Hein. Non, mais ton avis se défend, c'est juste.
Bien sûr, c'est juste que voilà, là, ton avis, j'ai pas compris en fait. Il ouvre la porte à l'équipe de France par rapport aux Jeux Olympiques, ouais, avec Thierry Henry, ouais. Mais mon ami, c'était. Enfin, fallait pas donner ta démission, on va dire. Fallait pas.
Tu sais, parfois l'amour ça revient. On pense que c'est fini et
ouais, mais
ça nous est tous arrivé.
Et en plus, on n'avait pas compris parce qu'on était tous dégoûtés qu'il soit parti de la Coupe du Monde et on voulait savoir la raison parce qu'il avait dit qu'il allait dire, qu'il allait parler à ce sujet.
Et surtout Karim, qu'il a pas parlé. Un ballon d'or comme encore. Tu dis qui est parti, mais qui est parti aussi des ligues majeures et ça, c'est un point malgré tout dans les compétitions internationales. Surtout quand on joue pour une équipe, un pays, c'est un poids qui est réel. On a beau dire tout ce qu'on veut, malheureusement. Heureusement, ce n'est pas le même niveau, en tout cas les mêmes adversaires qu'on rencontre dans ce genre de ligue. Claude qui nous a rejoint forcément, bonsoir à toi.
Bonsoir Solal, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Claude.
Tu vas bien ?
Ça va impeccable.
Tant mieux.
Je vais vous parler de Karim Benzema.
Bah, on est obligé.
L'équipe de France.
Peut-être que Claude est un peu.
Peut-être qu'il a des infos que nous on n'a pas.
Exactement.
Ou sur le tirage au sort. Peut-être qu'il a assisté au tirage au sort.
Moi j'ai une question pour vous justement. Est-ce que c'est un problème ? C'est un problème que Karim Benzema revienne ou demande à revenir en équipe de France dans le cadre des JO?
Pour qui, Claude? C'est ça la question, elle doit être un peu anglais, si je peux me permettre. Pour qui est-ce que c'est un problème? Aujourd'hui, est-ce que c'est un problème pour Thierry Henry qui sera le sélectionneur de cette équipe? Je doute, connaissant le personnage, qu'il ait envie d'une polémique autour d'un effectif qu'il essaie de consolider, qu'il essaie de rendre le plus solide possible et le plus hermétique à la pression extérieure possible, alors qu'il a vraiment des espèces de dynamiteurs à pseudo-polémique dans son équipe. Il gère vraiment bien certains dossiers, il gère le dossier Zaïre Emery, il l'a très bien géré, maintenant il a été délégué à Didier Deschamps. C'est un excellent formateur, je pense à ce qu'il fait avec Mathis Tel, forcément, qui au Bayern avait un peu une baisse de confiance, mais quand tu côtoies un Thierry Henry, forcément, t'as un gain en toi. Est-ce que ce Thierry Henry-là, qui semble vraiment tenir à gagner ces Jeux Olympiques, a vraiment envie de se rajouter la pression Benzema en plus sur ses épaules? Non.
Donc pour toi, c'est un aspect négatif
pour Thierry Henry? Pour Thierry Henry, dans le jeu,
Karim Benzema.
Dans le jeu, personne ne se prive du joueur d'une meilleure neuf de l'histoire de l'équipe de France, du meilleur neuf français de l'histoire. Alors vous pouvez me sortir les Cantona, tout ce que vous voulez, les hommes mentent, mais pas les chiffres. D'un côté, on a le meilleur buteur français de l'histoire du Real Madrid, le mec qui a 5 Ligues des Champions, un Ballon d'Or, il doit rien prouver à plus personne, c'est réglé. Mais est-ce que ça rentre dans...
Mais pourquoi il y a toujours un mais pour un joueur de cette stature?
Bon. Concernant Karim, je suis pas sûr qu'il sorte d'une très grande saison.
Non.
Ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'essaie de voir plutôt où est-ce qu'il serait le plus utile. Donc, je poserai la question, est-ce qu'il est plus utile à l'Euro ou peut-être au JO? Et à mon avis, il serait beaucoup plus utile au JO. Parce que je suis pas sûr qu'il ait aujourd'hui le niveau euro, ça c'est à mes yeux une évidence. Même si sur un ou deux matchs il peut faire la différence, on le sait, mais sur la continuité de la compétition, surtout si on va au bout, et j'espère qu'on ira au bout, je suis pas sûr qu'il fera cette différence. Par contre, on peut avoir une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée au JO. Primo, parce que Thierry Henry a besoin d'attaquants, et s'il doit prendre des garçons qui ont plus de 23 ans, ça sera déjà en attaque.
On va pas s'en priver, ça, Grégory, hein.
Ça c'est certain.
Au contraire, hein.
Et deuxième point, tu peux avoir un effet, je dirais, Zizou, à l'époque de en 2006. C'est-à-dire que ça élève tout le groupe autour de lui, pour en, techniquement et en termes d'investissement et autres. Donc ça peut être à mes yeux une grande plus-value pour Thierry Henry.
Je comprends même pas la question, moi, en fait, Claude. Mais en fait, je sais pas, il est parti. Et là, on me reparle de Karim Benzema. Moi, franchement, ouais, ça me, ça y est, là, j'en ai marre de d'entendre Karim Benzema. Après, parce qu'en fait, ça dévie à chaque fois. Ça parle même pas que de foot. Ça dévie à chaque fois sur côté politique, côté truc.
On n'est pas, Karim Benzema, on ne parle pas la de politique. France. Là, on ne parle pas de politique
non, mais,
ce soir.
Non, mais c'est ça.
Karim Benzema,
mais pourquoi,
on est bien clair.
Pourquoi
hein.
il a dit que, pourquoi il a dit qu'il pourrait participer au JO? Franchement, encore une fois, il aurait dû se taire.
Parce qu'on lui a posé la question.
Pourquoi
parce
il a droit de c'est quoi le, alors, mais, quel est le problème? Concrètement.
Bah, ça fait parler juste pour parler, c'est bien.
Mais
parce
c'est
que
pas
là,
le seul acteur à avoir pris la
dans
parole.
Une à la
il
n'y
a pas que Benzema, on parle vraiment du président de la fédération qui a pris la parole et bah, qui a dit qu'un ballon d'or ne se refuse pas. Et Thierry Henry a dit que tous les champs des possibles étaient ouverts.
Mais qu'on crève l'abcès alors.
Donc,
il y a une zone d'hypocrisie
alors,
qui est en haut de tout
mais
ça.
Mais c'est quoi ton point de vue alors?
Mon point de vue en fait, c'est que arrêtons de. Voilà, parlons terre à terre, parlons français, franco. Français.
Alors,
qu'est-ce qui se passe avec Karim Benzema? Pourquoi à chaque fois, deux mois, trois mois, on n'entend plus parler de lui, et après il y a encore une chose qui revient avec Karim Benzema et l'équipe de France. Là, j'entendais qu'il n'était pas bien dans son club. C'est vrai qu'il n'était pas bien dans son club apparemment. Il s'entendait pas très très bien avec des dirigeants. Après, j'entendais voilà, mais parce qu'il est en Arabie Saoudite, donc par rapport à sa religion, il doit être bien. En fait, les gens ils mélangent tout. Ils savent même pas la personne en lui-même ce que Karim Benzema ressent parce qu'ils l'ont même pas demandé en
mais
plus.
Mais ton point de vue.
C'est qu'on en fait trop pour rien. Et si on doit parler de Karim Benzema avec tout ce qui s'ensuit autour, et ben qu'on le fasse, mais une bonne fois pour toutes. Mais qu'on arrête de dire Karim Benzema au JO, Karim Benzema à l'Euro. Ça y est, normalement, c'est terminé avec l'équipe de France. On sait pas ce qu'il y a eu. Et le problème, c'est qu'il parle sur des choses, mais j'aimerais bien qu'il nous parle de pourquoi il est parti de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Merci Karim, si tu nous entends.
Mais Karim Benzema va participer au JO avec, je crois, Thierry Henry. Hein, c'est pas avec l'équipe de France A.
Déjà, voilà, il y a déjà ces deux équipes de France différentes. C'est-à-dire que, de fait, l'équipe de France qui participe au JO.
Et vous savez que c'est incroyable de dire ça déjà,
oui,
qu'il y a deux
c'est...
équipes de France, alors que
oui,
c'est l'équipe
une réalité
de France.
C'est une réalité.
Mais, ouais, mais donc, il y a un problème avec Karim Benzema. Et j'aimerais bien, en fait, qu'on touche. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce joueur en fait.
Juste pour reprendre, c'est que.
Parce qu'en fait, l'histoire.
Je reprends
excuse-moi, Claude. L'histoire, elle date de 2022.
Il y a beaucoup d'émotions et de passion. Mais alors, juste, je remets quand même les choses dans le contexte, c'est que. Les équipes qui participent au JO, ce sont les équipes espoirs.
Ouais.
Et on peut intégrer trois joueurs de plus de 23 ans. Donc
j'entends.
Ça reste deux équipes différentes.
Oui. Et en même temps, il y a des gens qui pensent d'une façon différente sur Karim Benzema. Et moi, en fait, j'ai l'impression, voilà, mais qu'est-ce qu'il y a eu depuis 2022, en fait? Il est revenu, on était tous contents, et après, il part. Un soir comme ça, il part du Qatar. On ne sait pas. Il y a eu un malaise. Il y a eu un malaise carrément. Et là, il revient par rapport au JO. Je ne comprends plus.
Mais je pense qu'il faut dissocier les deux histoires. C'est-à-dire que pour moi, il y a des joueurs qui vont parler.
On parle de la même personne ou de plusieurs personnes du coup.
Il faut dissocier les deux histoires. Pourquoi il faut dissocier les deux histoires? C'est parce que quand on regarde les profils des joueurs qui en réalité sont sélectionnables dans les plus de 23 ans, qui sont sélectionnables pour des Jeux Olympiques, Karim Benzema, il rentre dans le profil. Souvenez-vous, il y a 3 ans, c'était Florian Thauvin, TJ Sévanier et André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac et Thauvin, au moment où ils sont sélectionnés en équipe de France pour les Jeux Olympiques, ils jouent au Mexique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a pris un joueur, TJ Sévanier, qui était en Ligue 1, et deux joueurs qui jouent au Mexique, donc dans des championnats qui sont... périphérique par rapport à la hiérarchie.
Avec Benzema, il y a toujours une histoire.
Et je rappelle dans cette équipe de France Espoir que les tauliers de l'équipe de France Espoir de l'époque n'avaient pas été libérés par les clubs. Hein.
Comme Kamavinga par exemple. Mais donc ce que ça veut dire, c'est que globalement, un joueur qui a une expérience en équipe de France, donc qui connaît le système et qui est dans un championnat périphérique, ça correspond à Karim Benzema.
Mais comment il peut dire je veux participer au JO alors qu'il était dégoûté qu'il parte du Qatar? Je ne comprends pas. Et il a toujours pas dit.
Bah après les hommes changent. On est en 2024, on n'est plus en 2022.
Bah, qui nous informe alors du coup.
Il a le ballon d'or quand même. Il doit rien à personne.
Il a aucun compte.
Moi aussi je suis comme lui. Je dis j'ai le ballon d'or, je mets des stories avec Tupac et je parle à plus personne.
Champions League derrière lui.
Moi regarde, je comprends tes interrogations.
Vivien qui s'exprime.
En fait je comprends tes interrogations.
Qui filme tout le monde et qui s'exprime. s'exprimer.
Voilà, bon, toutes les coulisses sont révélées à l'antenne, c'est parfait.
Merci Vivien.
Non mais en fait, si on reprend le contexte des jeux, justement, l'historique de Tokyo a bien été rappelé. On a appelé Gignac, Savani, etc. Et malgré tout, c'était une catastrophe. Donc là, le but, c'est d'éviter un fiasco à Paris. C'est un peu ce que Thierry Henry a dit en conférence de presse. Il a dit, si j'échoue, on m'en reparlera parce que les jeux à Paris, c'est une fois tous les 100 ans. Donc, on voit bien que tout simplement, on essaie d'avoir la meilleure équipe de France possible. Donc, il y a les options Mbappé et Griezmann. On ne sait pas si les clubs vont les libérer. Si ce n'est pas le cas, moi, avoir Karim Benzema parmi les trois avec peut-être un Raphaël Varane, peut-être, voire même un Olivier Giroud, faudra voir où est-ce qu'il joue l'an prochain. Okay. Ben, moi, je trouve que ça peut être des options intéressantes. Pourquoi Benzema, c'est une option intéressante malgré sa saison effectivement moyenne à Al-Nassr. Non, c'est Cristiano, c'est Al-Ittihad. Effectivement, il fait une saison très moyenne, mais je pense que sur un format jeu bien géré avec et si tu le laisses en neuf justement avec des jeunes.
Mais c'est pour le sportif, pour le côté sportif, ou c'est pour l'emblème.
Pour répondre à ta question, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Karim, il fait vendre. Point barre. Donc c'est pour ça que tu m'en parles.
Non, mais moi c'est pour le côté sportif.
On parle d'un garçon qui est comme il l'a dit tout à l'heure. Moi, il est Ballon d'Or. Il a gagné 5 fois la Champions League. Il a eu beaucoup à cause d'un certain nombre de casseroles, de mauvaise publicité entre guillemets.
Qu'il doit à lui-même.
Mais peu importe. Non. Je veux dire, c'est la vie. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, par rapport à ce qu'on évoque, c'est quelle est la plus-value. Alors Thierry Henry, il a effectivement une grosse pression. Les JO se passent en France, à Paris. Il doit absolument faire un résultat. Et en plus, ça va être corrélé et il va être inévitablement comparé à ce que va faire l'équipe de France pendant l'Euro. Donc si l'équipe de France pendant l'Euro va loin, et j'espère que ce coup-ci elle gagnera la finale, Thierry Henry doit également quasiment aller en finale et la gagner aussi.
Mais moi, juste pour reprendre tes propos, j'aimerais juste finir là-dessus. Moi j'ai un seul souvenir de Jeux Olympiques et de football en même temps. C'est quand Neymar la prend au Brésil en 2016. Et quand je me souviens qui jouait à ses côtés, je sais pas si tu te souviens HD, des noms inconnus au bataillon. À cette époque-là, bien sûr, je pense à Gabigol, je pense à Gabriel Jesus, des joueurs qui venaient du championnat brésilien, qui n'étaient pas du tout affirmés. Et de l'autre côté, quand tu vois l'équipe de France espoir, on a un vivier de talent générationnel, et ajouter un Karim Benzema, parce que Vivien, tu te défends sur le côté sportif de Benzema, comme si tu parlais pas d'un mec qui a le ballon d'or, qui a marqué 15 buts sur la phase finale de Ligue des Champions, et qui a pris 5 Ligues des Champions, et qui était le meilleur joueur de ces années-là. Depuis 2 ans, quand même, il a écrasé l'Europe, donc sur le côté sportif, c'est pas
mais
du tout une
moral,
inquiétude.
Mais moral, tu l'auras qu'il va avoir auprès de l'équipe.
Bah oui.
Je veux dire, tu fais venir Karim auprès de ces jeunes-là, et ça va lever mentalement, techniquement, à tous les niveaux, ça va lever.
Vous avez oublié 2022.
Comme pas permis.
Mais je devais y abstam si on le met à côté de moi, Karim Benzema.
Et le Qatar, il y a eu un malaise. Mais vous me dites comme si tout
mais
va bien.
C'est pas la même équipe.
En fait,
oui,
vous
me
dites comme si il n'y a pas eu d'histoire. Oui, mais nous, on reste sur une fin. Inexpliquée. Vous faites des pronostics. Vous êtes en train de faire. Il va revenir par rapport au JO. Mais il ne s'est même pas expliqué sur le mal-être qu'il a eu. Il est parti de la Coupe du Monde. Alors que dans aucune équipe nationale, le meilleur joueur, comme vous dites, parce que vous le répétez, le meilleur joueur ne serait parti. Neymar, quand il était blessé, il est resté. Il s'est soigné pour la Coupe du Monde. Et Karim Benzema, il a pris un vol retour direction.
Merci.
Voilà.
Merci. On se retrouve juste après.
Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On se retrouve pour la suite de cette émission de Time Sport sur Beurre FM, 21h, 22h. Cette période exceptionnelle. Ceux qui sont en train de manger encore, qui sont à table, bon appétit à tous. En tout cas, c'est un sujet là qui cristallise, qui passionne certainement nos auditeurs et puis nos consultants. Karim Benzema, est-ce un bon choix? Doit-il aider, on va dire, hein, cette nouvelle génération à participer au JO 2024 tant attendu en France? C'est vrai que on n'est pas d'accord sur le plateau. Hein.
Mais Claude, moi, la question que tu poses en arrivant sur le plateau, c'est Mohamed, tu viens de manger, tu viens de casser ton ramadan. Est-ce que tu veux un cheesecake caramel pour le dessert? Oui, Claude.
Moi, je suis là pour ça.
Mais Claude, donne-moi ce cheesecake au caramel, sérieux. Ce cheesecake au caramel, il est à 400 buts, il est à 380 buts à peu près avec le Real Madrid. Il est 5 Ligues des Champions. Et au-delà de toutes les statistiques, parce qu'il n'y a pas que ça dans le football, il y a la beauté, il y a le geste, il y a la finesse. Karim Benzema, c'est les contrôles orientés, c'est le jeu de haut but. C'est les passements de jambes où il va tomber, c'est tout ça, c'est le bandage sur le poignet, tu sais, ces petits détails un peu mythiques qu'on retrouvait plus dans le football d'aujourd'hui, dans certains contrôles. Moi, il avait des airs de Dennis Bergkamp, ce Karim Benzema en 2022, une espèce de légèreté exceptionnelle. Et quand tu peux allier ça avec aujourd'hui, et je tiens à le rappeler pour nos auditeurs qui peut-être ne regardent pas l'équipe de France Espoir, on a un vivier de talent exceptionnel. On a Mathys Tel qui est presque titulaire au Bayern de Munich. On a Rayan Cherki qui est un des talents les plus forts de la Ligue 1.
Exact.
On a vraiment, mais sur tous les postes en plus, en équipe de France Espoir, c'est chargé HD. Donc tu rajoutes un mec trop fort une avec légende. Des mecs qui peuvent être très forts. Je suis désolé, la recette elle est parfaite là. C'est...
Après pour replacer le débat et l'enjeu pour l'équipe de France, en fait il faut rappeler que la particularité des Jeux Olympiques, c'est que c'est un tournoi qui a complètement échappé aux équipes européennes. C'est-à-dire que la dernière fois qu'une équipe européenne a gagné le tournoi olympique chez les garçons, c'était l'Espagne en 92, donc à domicile. Donc quelque part la France peut éventuellement refaire la même chose, mais depuis 92, c'est les équipes latino-américaines. Les deux derniers titres par exemple ont été pris par le Brésil, qui là pour le coup sera absent sur ce tournoi. Il y a le Mexique, il y a aussi les deux premiers titres dans des tournois mondiaux pour des équipes africaines, le Nigeria et le Cameroun. Mais très clairement, les Jeux Olympiques, c'est un tournoi qui n'est plus favorable depuis très longtemps aux équipes européennes. Donc la question de où est-ce qu'on place la barre pour l'équipe de France masculine sur ce tournoi olympique, il ne faut pas non plus la mettre trop haut. Parce que en réalité, dans la hiérarchie mondiale, dans cette catégorie-là, aux Jeux Olympiques, ça fait très longtemps que l'équipe de France, depuis 84, et globalement les équipes européennes, sont descendues dans la hiérarchie et n'ont plus du tout la main sur les tournois olympiques.
Bah parce que les moins de 23, la plupart en Europe, c'est des garçons qui sont déjà pros, qui sont déjà au top niveau. Le CIO, la FIFA, ce sont deux fédés qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et donc les clubs ne libèrent pas parce qu'ils n'ont aucune obligation de libérer. Sans parler que la plupart de nos jeunes, on parle par exemple en équipe de France, les très très bons en moins de 23, bah ils sont avec l'équipe de France. Hein.
C'est une gestion, et j'en parlais moi dès lundi, à partir du moment où tu as l'UEFA qui te met 47 trêves internationales dans ta saison. Et après, on se plaignait de l'image de Pedri complètement essoufflé avec l'équipe espagnole. On disait non, mais la santé des joueurs, c'est pas possible. On a eu des joueurs qui sont montés au créneau pour expliquer que ça n'allait plus du tout. C'était dans un système pseudo-esclavagiste du joueur où tu l'utilises à fond pour gratter le dernier euro que tu peux avoir sur les droits télé et créer des rencontres supplémentaires totalement inutiles. Tu bousilles tes joueurs et leur santé, et à la fin t'as cette espèce de problème qui arrive vachement exceptionnellement, l'euro super important pour certaines nations et en l'occurrence pour l'équipe de France et les Jeux Olympiques à Paris, et avoir ce problème que t'es pas censé avoir, parce que l'argument principal des clubs c'est je veux pas tuer mon joueur. Mais c'est les mêmes clubs qui vont aller en Arabie Saoudite et en Amérique du Nord pour faire des espèces de stages, de sessions de 2 mois à Los Angeles dans une nature brûlante, avec des matchs je ne sais combien de temps, avec des règles des fois qui sont bizarres. Tu tues tes joueurs, tu leur fais un décalage horaire de je ne sais combien d'heures, et à la fin tu dis non, je veux pas qu'ils jouent les deux compétitions. L'hypocrisie elle est là.
Voilà, après moi pour revenir sur Karim Benzema au JO, normalement
tu lâches pas Karim Benzema.
T'es déjà
Mostafa.
Non, c'est même pas ça, mais en fait, je comprends pas. Normalement pour moi, il pourrait jouer l'euro en fait, moi clairement. Comme disait Grégory, pour moi il pourrait jouer l'euro clairement. Et je comprends pas pourquoi il pourrait jouer les JO avec Thierry Henry. Et il n'est pas du tout sélectionnable avec Didier Deschamps et l'équipe A de
parce
France.
Parce qu'il a arrêté la sélection.
Ouais, mais et c'est ça que je trouve ça. Ben je trouve ça grave. Paradoxal en fait. Je trouve vraiment c'est limite. Je trouve ça étrange en fait. C'est vraiment étrange. Et donc c'est pour ça que moi cette question, quand j'ai entendu hier ce phénomène, je dis mais c'est pas possible en fait. Encore on reparle de Karim Benzema alors que Monsieur Benzema, mais parle-nous de 2022. Pourquoi t'es parti en fait? Qu'on reprenne l'histoire en fait. Voilà en fait. Moi j'arrive pas à comprendre. Vraiment.
En fait la discussion elle commence parce que on sait petit à petit que Mbappé pourra pas faire les deux. Donc à un moment de non mais pour plein de raisons.
Normalement aucun joueur qui va jouer l'Euro ne va faire les JO.
Oui mais
ça c'est logique,
oui, mais
ça.
Donc à un moment donné au début. quand, au début de la discussion sur les Jeux Olympiques, c'était Kylian Mbappé, c'est mon rêve de faire les JO, etc. Et donc la négociation, et encore aujourd'hui, Zaïre Emery dit à peu près la même chose. Quand tu poses la question aux joueurs, ils te disent « Oui, moi j'aimerais faire les deux », tout en sachant très bien que la décision ne dépend pas d'eux et que concrètement, ils ne pourront pas faire les deux. Donc la question de Benzema, elle tient au fait qu'il a répondu à une question sur l'équipe, et de deux, que tu réfléchis à des joueurs qui ont le niveau international, qui ont un vécu avec l'équipe de France et qui, d'eux, ne sont pas sélectionnables pour l'Euro. Et il n'y en a pas 36 000.
Et Benzema seuls qui risquent de lâcher du lest, d'ailleurs, c'est les clubs français, puisque le JO se passe en France et qui vont se retrouver avec une grosse pression, le PSG et j'en passe. C'est les seuls qui risquent peut-être de lâcher leurs joueurs.
Moi, je voulais juste dire, j'aimerais bien que Karim Benzema soit sélectionnable pour les JO et qu'il revienne. Mais j'aimerais bien aussi qu'on sache le fin mot de cette histoire, en fait, avec Didier Deschamps, avec peut-être Noël Le Graët, avec la FFF, qui, faut le rappeler quand même, a subi. Il y avait beaucoup de gens qui sont partis de la FFF parce que c'était très très mal géré dedans.
Mais pourquoi pourquoi on aurait besoin de savoir absolument ce qui s'est passé avec l'équipe A?
Parce qu'on s'est arrêté à là, Claude. On s'est arrêté à là. Tout le monde s'est arrêté à là.
Il est reparti, il est rentré à la maison pour blessure. Alors on a peut-être pas tous les ans.
Mais lui-même a dit que j'étais pas blessé, j'aurais pu jouer.
Le vrai problème, c'est pas qu'il soit rentré pour blessure.
J'y étais.
Voilà. Je sais pas si j'ai toutes les infos. Mais le vrai problème, c'est qu'il était blessé. Et à mes yeux, le seul problème qu'il y a à l'époque, c'est pourquoi il n'est pas resté. Deschamps l'a pas remplacé.
Il était, voilà, on a précipité son
exactement
départ.
Exactement. Pourquoi il n'est pas resté? C'est la vraie question.
C'est toi, Claude.
Maintenant, c'est comme ça, c'est fait, c'est derrière. On va avancer sur le sujet. Tout à l'heure, moi, avait un excellent sujet qu'il avait lancé sur les compétitions. Aujourd'hui, pourquoi on a beaucoup de compétitions? La FIFA a mis beaucoup de temps à monter le football en mayonnaise. Et je parle financièrement. Aujourd'hui, ils sont en train de noyer en termes de compétitions et de matchs pour ne laisser de la place à aucune concurrence. Il y a quand même depuis un certain temps certains clubs qui veulent faire des certaines choses. Donc on ne va pas laisser ni au club et encore moins au CEO de créer une concurrence et de commencer à surfer sur le football.
Mais c'est surtout que c'est une concurrence qui n'a pas lieu d'être. Là, les Jeux Olympiques ne jouent même pas dans la même cour que certaines compétitions de football. Ça a une aura vraiment mythique.
Je ne suis pas sûr. Imagine que tu prends tous les meilleurs joueurs de moins de 23 ans dans tous les top clubs. Oui. Je peux te dire que les matchs de JO, c'est plus les mêmes du tout. Hein.
Mais ouais, ça dépend de ce que ta nation veut faire. Là, je pense directement, moi, du côté basket, à la Dream Team, où les États-Unis voulaient vraiment prouver ça. Et c'est le seul exemple que j'ai en tête d'une équipe qui réunit les meilleurs joueurs de ce sport pour des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, peut-être le basket en France.
C'est autre chose, le basket.
Le basket est peut-être une discipline plus olympique que le football.
On peut pas se permettre de faire ça. Parce que les joueurs sont cuits. Je sais très bien, c'est pas la même politique.
Parce que concernant le football au JO, c'est les équipes espoirs, contrairement aux disciplines, tu sais.
Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a un vivier qui peut nous permettre d'avoir des joueurs de très haut niveau, même en moins de 23 ans.
Et on a un Vivien, bien sûr.
Il est de très haut niveau.
Après, de fait, il y a des équipes des nations qui se sont spécialisées, soit sur la Coupe du Monde, soit sur les JO. Et bon, après, on va pas revenir sur l'historique des deux palmarès, mais vous regardez, il y a des équipes qui gagnent aux JO qui ne gagnent jamais en Coupe du Monde, et des équipes qui gagnent en Coupe du Monde. Voilà. Et donc, il y a toute une histoire. Et la France, de fait, fait partie des nations qui ont plutôt privilégié la Coupe du Monde par rapport aux JO.
On continuera encore longtemps de parler de cette actualité. En tout cas, les JO arrivent à grands pas. On passe à la suite.
Time Sport, le mode pressing.
Bonsoir les âmes, bonsoir chers auditeurs et auditrices, merci pour l'honneur que vous me faites de m'écouter. Alors aujourd'hui, une chronique qui aura un début un petit peu triste sur un événement douloureux qui nous a tous touchés et comment en tirer les conclusions. Je souhaite que le retour tant attendu du soleil te permette plus de joie. Que les prémices de ce printemps qui se dessine te fassent ressentir le bourgeonnement en toi et l'excitation de nouveaux départs. Le sang a encore coulé sur le bitume. Repose en paix, jeune homme. Condoléances à cette mère qui n'a pas fini de pleurer et à tout l'entourage sous le choc. Au risque de te surprendre, j'apporte également toute ma compassion à cet homme qui, en prenant une vie, a entamé la douloureuse mort de la sienne. Je ne choisirai pas de camp. Combien de dizaines de fois avons-nous déjà vécu ce drame ? Un enfant du peuple qui tue un autre enfant du peuple. Les mêmes questions au présent reviennent. Pourquoi ce jeune homme n'était-il pas scolarisé en train de travailler, de s'occuper de sa famille, de faire du sport ou de contribuer à la société? Pourquoi ces policiers ont ces gestes brutaux et mortifères sous le coup du stress? Comment sont-ils formés? Sont-ils bien payés et épanouis dans leur métier? Comme toi, le justicier en moi cherche un coupable. Oups, désolé, un responsable. Prenons un peu de distance émotionnelle avec ce drame et par la magie de l'image, tentons de comprendre par-delà cette violence ce qui se trame. As-tu connaissance de l'expérience avec les fourmis rouges et les fourmis noires? Disposons deux espèces de fourmis dans un bocal et observe comment elles cohabitent pacifiquement. Si tu secoues le bocal, tu crées un stress intense et la panique. Ainsi, les fourmis, se sentant attaquées, commencent à se battre et à s'entretuer. Chaque espèce imputant la primeur de l'attaque et la responsabilité du massacre à l'autre groupe. La vraie question est: qui a secoué ce putain de bocal? Ressens-tu comme moi l'envie de pointer du doigt ces politiques incompétentes? Quel qu'ait été le pouvoir en France ou ailleurs et dans le monde, nous ne pouvons que constater une dégradation de la qualité de vie, une injonction au conflit et une course à la guerre. Pourtant, ces individus ont été choisis et même élus. Nous les avons mis en place. Suffirait-il de changer les chevaux pour que la course devienne plus douce pour tous? Évidemment que non. Il est temps de changer les règles de cette course. Pour vivre le monde comme nous le souhaitons, il existe un chemin qui précède celui du bulletin dans l'urne. Sur un plan individuel et collectif, c'est à l'intérieur de chacun que la réponse se trouve. Cette réalité dégueulasse que nous vivons n'est que le reflet de la somme de nos pensées destructrices, de nos émotions refoulées ou entretenues, et de nos choix conditionnés, donc égoïstes. Imagine-toi responsable d'un groupe de personnes agitées, apeurées, en conflit, désespérées, se victimisant ou agressifs. Aurais-tu assez d'amour pour raison garder et les diriger patiemment sans recourir à la menace ou à la force? Une classe dissipée, turbulente ou désintéressée donnera naissance à un professeur dur et punitif. Une fratrie décousue, irrespectueuse et égoïste créera des parents plaintifs et violents. 22 joueurs méconnaissant les règles inciteront l'arbitre à multiplier les cartons rouges et les exclusions. Les égrégores négatifs mènent la danse macabre. Un égrégore est un concept désignant un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Une humanité mue par la peur, la division, le goût du conflit, le consumérisme et les distractions mettra en place des dirigeants qui incarnent les mêmes appétences. Toutes ces énergies cumulées créent la difficile réalité que nous partageons. Cesse de les imiter. Débarrasse-toi de tout ce qui en toi peut rabaisser ou avilir les autres. Ouvre-toi à l'amour et aime ton prochain comme toi-même. À présent que tu te souviens quel pouvoir tu as sur le monde autour de toi, que vas-tu en faire? Merci.
Le magnifique message, encore une fois, comme tous les mercredis, de notre coach Aurélien Duarte, qui reste avec nous, car tu vas nous présenter Cyril, qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Cyril.
Bonsoir à tous.
Bonsoir monsieur Cyril Benzekem, je suis très ému. Cyril est un multiple champion du monde. Il a fait un énorme combat il n'y a pas longtemps contre Johan Lidon au pied de la Tour Eiffel. Là il a signé pour le Glory. En plus de ça, c'est un super entrepreneur. Il fait plein de choses, vraiment d'amener la boxe dans les beaux quartiers, donner une belle image de notre sport. Et je suis très touché parce que j'étais son premier entraîneur en 2006, je crois. Il était tout jeune, tout gros et tout boutonneux avant d'être le beau gosse qu'il est. Je le rappelle, avant d'être le beau gosse qu'il est là. Et donc on a le plaisir et la joie d'organiser un stage ensemble samedi sur la confiance en soi, le ouais. rapport à l'argent et l'accès au calme. Donc j'ai beaucoup parlé. Cyril, bienvenue mon grand. Comment ça va?
Eh ben, merci de m'accueillir Aurélien et je suis très heureux parce que tu sais, je sors de l'entraînement et là, t'écouter parler comme ça, ça va me permettre de redescendre très bien et c'est toujours agréable. Et ça me rappelle les bonnes discussions que l'on avait quand on finissait les entraînements à Châtillon.
Alors justement, Cyril, une question. Qu'est-ce que le coach Aurélien Duarte vous a apporté?
Alors, ben, ce qui est intéressant avec Aurélien, c'est que c'est vraiment un coach. C'est-à-dire qu'un coach, vous savez, contrairement à un entraîneur, c'est quelqu'un qui s'adapte à son élève. Et Aurélien, je pense que la force qu'il a, c'est cette capacité, cette intelligence, on va dire, émotionnelle, de pouvoir s'adapter aux personnes qu'il a en face de lui. Et c'est ce qui fait que c'est un coach formidable, parce qu'il sait vous révéler votre potentiel, en fait. Et donc... Et donc, avec Aurélien, on a fait des grandes choses et il m'a transmis la passion qu'est la boxe.
Hey, merci Cyril. Tu peux parler de l'événement de samedi? Et peut-être avant ça, pardon, de ta signature au Glory, alors. Qu'est-ce que ça te fait d'aller combattre dans cette grande organisation?
Eh ben, écoute, je suis très heureux et ça tombe à un super moment parce que, comme tu disais, voilà, j'ai fait un super combat duquel je suis très très heureux il y a quelques semaines. Et là, donc fin avril, je ferai mes débuts. Avec mon contrat au Glory, qui est la plus grande organisation de kickboxing. Et donc, je suis hyper heureux, hyper fier qui m'appelle. Et j'ai hâte d'être sur le ring du Glory pour montrer ma valeur et aller chercher le titre là-bas. Et ensemble, en fait, samedi, avec Aurélien, en fait, l'idée, c'est qu'on s'est dit qu'on allait partager un peu notre savoir-faire, mais plus que notre savoir-faire, en fait, ce que la boxe m'a apporté. C'est-à-dire que Aurélien a voulu qu'on mette l'accent, et je trouve ça intéressant, sur la valeur financière. Et c'est vrai que, en fait, grâce à la boxe, j'ai pris conscience de certaines valeurs. Pour certains, elles n'avaient pas la valeur qu'on pouvait lui attribuer. Et en fait, j'ai appris à la positionner, on va dire, là où je voulais la positionner. Et du coup, c'est un peu ça qu'on va voir dans un premier temps. C'est donner la valeur que l'on a envie de donner aux choses, plus que celle que l'on croit qu'elle est, quoi.
Rien, ça se déroulait donc samedi, c'est
donc
ça.
Samedi à Châtillon, à l'espace Maison Blanche, à partir de 15h au Châtillon Boxing Club. C'est 40€ pour 3 heures de conférence, de voyage transformationnel. Donc véritablement, si en ce moment vous manquez un peu de confiance, ou si vous en avez déjà et que vous avez besoin d'un surcroît de confiance, de vous sentir entouré et motivé par des champions et tout un super public, rendez-vous samedi.
On a 14 champions du monde quand même à E2. Bravo à vous, on les retrouve. Donc merci samedi, absolument. Merci de nous avoir écoutés. Merci aux consultants, aux auditeurs. On se retrouve demain avec le retour de Bilal. Bonne soirée.
Retrouvez Time Sport, podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.